il tempo corre, débat, scappa, corre, des scappa,
débat des filles.
Débat des filles.
Débat des filles.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers auditeurs de 2008, chères auditrices de 2018. Voilà, il y a 10 ans de ça, deux émissions de radio se créaient, Ne racontez pas la fin, qui a duré quelques années, Débat des filles, qui a duré beaucoup moins longtemps, et à l'occasion des 25 ans de Radio Campus 90.8, on s'est dit que ce serait pas mal de créer une sorte d'hybride, et ce sera du coup des fins débats, à l'écrire comme vous le souhaitez, des fins de la finesse, des fins comme des cadavres, débats comme une discussion. Oh, merci Martin, on est aux petits oignons ici, c'est un vrai bonheur de retrouver Radio Campus.
Le studio a changé, non ?
Un truc de fou, c'est-à-dire que maintenant il y a du bois de partout, on se croirait chez les castors, mais des castors designers. C'est parfait, c'est sublime. Voilà, du coup, de Débat des filles, on était une team de 4-5 nénettes où on vous présentait une émission culturelle chaque semaine, une pièce d'appartement. Putain, j'ai Martin qui me fait toute la technique, c'est un vrai bonheur. Promis, après, je m'autonomise. du coup, voilà, nous étions 5 nénettes qui, toutes les semaines, vous racontions des histoires dans notre salle de bain, notre cuisine, mais aussi notre balcon. Et là, on a décidé de revenir. Je suis la seule, mais je suis la seule en studio. On a ceci dit eu des chroniques depuis Londres, depuis Paris. Vous aurez l'occasion de les entendre. Et de Ne racontez pas la fin, mythique émission de cinéma grenobloise, nous avons Guillaume.
Bonjour.
Comment vas-tu ?
Très ému. Vraiment, hein. C'est
alors,
pas facile.
Raconte-nous.
Enfin, si, c'est bien, c'est bien. Mon émotion, c'est ça. Alors raconter, quand on a reçu un mail il n'y a pas longtemps de Radio Campus Grenoble, nous invitant, nous parmi tant d'autres, à venir faire quelque chose pour ces 25 ans, avec Léa, je me suis retourné vers toi et j'ai dit mais oui. Alors il se trouve qu'on est vraiment les derniers, hein, on est les survivants, parce que moi aussi je suis tout seul de feu mon émission Ne racontez pas la fin. Après, ils ont tous des bonnes raisons, c'est dimanche et ils font la grasse matinée. Donc, mais je ne suis pas tout seul non plus, nous ne sommes pas tout seuls, puisque nous avons un invité exceptionnel qui se trouve être Julien. Bonjour Julien.
Bonjour. Oui, effectivement, je suis un invité exceptionnel et je ne vous dirai pas pour l'instant pourquoi je suis l'invité exceptionnel. Je tiens à rester pour l'instant l'invité mystère, celui dont on n'a pas la moindre idée de pourquoi on l'a invité, puisque je n'étais ni dans la première ni dans la deuxième émission, que je n'ai jamais fait d'émission sur Radio Campus 90.8. Assez magnifique radio d'ailleurs, il faut que je me rapproche du micro, comme ça je parle dans le micro, et que je ne suis même pas grenoblois. Donc qu'est-ce que je fous là ?
Eh bien ça, alors c'est un peu de la provoque, puisque moi je vais faire une chronique sur le spoiler, donc j'ai très envie de spoiler ta présence, mais je n'en ferai rien.
Je préfère que ça reste personnel.
Aucun souci. Du coup, comme je vous disais au départ, Débat des filles, c'était à chaque fois une salle. Là, on s'est posé plein de questions de dire, 10 ans après la dernière émission, qu'est-ce qu'on va faire comme espace ? Et bon, la Radio Campus est une radio qui vieillit bien, qui chaque fois devient de plus en plus savoureuse. Parallèlement à cela, nous avons un film d'horreur fétiche, La cabane dans les bois, qui est de, Guillaume, rappelle-moi ?
Drew Goddard.
Voilà, Drew Goddard.
Aucun rapport, fils unique.
Ouais, non, pas copain. Et La cabane au fond des bois, où, célèbre film d'horreur, les personnages principaux vont dans la cave et découvrent là toutes les possibilités des films d'horreur avec tous les clichés, toutes les évidences. Et là, on s'est dit, entre Radio Campus, où maintenant on a un peu grandi, on boit moins de crocs, on boit plus... Oh, quand même, on est plus dans le Merlot et compagnie.
La 16.
Voilà, on est passé de la croix à la 16. Du coup, on s'est dit, allez, allons dans la cave, faisons une émission spéciale cave, avec à la fois des chroniques autour du cinéma, merci Guillaume, merci Julien, des chroniques autour de cette notion de cave, merci Caroline, merci Flora, avec de l'art contemporain, du cinéma, etc. Et dès maintenant, je vous propose de partir avec un premier morceau des Killers.
Pour la fin du monde,
la technique. Merci pour le spoiler du générique de fin.
Voilà, c'est le générique de fin. Excusez-moi, toutes mes excuses, plein de gros bisous à tous. En fait, j'ai découvert que c'était pas du tout pratique de mettre... on va s'en sortir. Que c'était pas du tout pratique d'avoir un ordinateur ici.
Débat des fins.
C'est-à-dire qu'en réalité, je n'ai pas le bras assez long pour être en même temps avec un écran et de l'autre sur les platines. La découverte de la technologie.
Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que ça finit comme ça a commencé. Il y a 10 ans, j'ai fait la même.
Je sais pas si je vais le prendre aussi bien. Finalement, je vais être assise, Martin. Je suis navrée, je t'assure que je vais m'en sortir d'ici peu de temps. Et donc, je vous assure que là, on va peut-être lancer les
Killers. C'est The Things I Have Done, des Killers, qui se trouve être dans un film que j'aime beaucoup, qui s'appelle Southland Tales. Deuxième film du réalisateur de Donnie Darko. Voilà, je meuble, hein, tu me dis quand tu peux lancer.
Bon, vas-y. Allez, topito, merci. Putain.
Donc,
j'ai un problème au fait. On a tout téléchargé il y a 2 minutes et en fait, ça n'a pas fonctionné comme téléchargement. Voilà, on va être très simple.
Je les ai testés.
Ouais, mais j'ai une piste qui ne veut pas fonctionner. Donc, on va tout directement passer à la chronique du spoiler tant qu'à faire.
Ok, et on se la remettra après, donc c'est bien. Alors, le spoiler, ça me permet de dire 2-3 mots quand même, de ne raconter pas la fin, parce qu'il y en a eu beaucoup pour Débat des filles. Il y a 10 ans de ça, avec 3 comparses qui se trouvaient être Raphaël, Thiago et Sabine, nous avions monté une émission de cinéma qui était diffusée en direct les dimanches à 17h, il me semble, donc un petit côté masque et la plume, qui s'appelait « Ne racontez pas la fin ». Alors d'où venait ce titre ? Eh bien c'était la baseline, punchline, tagline, la phrase de promo d'un film qui est sorti il y a 11 ans maintenant, qui s'appelle « L'orphelinat » de J.A. Bayona, film espagnol, film de genre espagnol. Et donc il y avait sur cette affiche en gros « Ne » et surtout « Ne racontez pas la fin ». Ça nous avait fait énormément rire à l'époque, film que à titre personnel d'ailleurs je trouve assez moyen, même s'il s'inscrit dans cette mouvance du cinéma de genre espagnol qui depuis 10 ans est quand même très intéressant. Espagnol et hispanophone d'ailleurs. Et moi j'ai toujours pris ce titre, enfin cette baseline puis ce titre d'émission un petit peu de manière ironique. Parce que je n'ai personnellement aucun souci avec le spoiler. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde et faisant moi preuve d'ouverture d'esprit, je peux le comprendre. Alors, en introduction, une petite anecdote. Il n'y a pas si longtemps que ça, alors ça rigole dans le studio, des pains techniques.
Excusez-nous.
Je vais vous raconter l'histoire de ce cher Oleg Bologozov, dont l'histoire est quand même assez intéressante à 2 titres. Donc Oleg est un scientifique qui a passé 4 ans dans la station de Bellinghausen, donc proche de l'Antarctique Sud, avec son collègue Sergei Svatisky. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à ce Oleg ? Eh ben, il s'est fait poignarder par son collègue. Voilà. Et pourquoi donc ? Parce que ils s'emmerdaient un peu au bout de 4 ans. Ils étaient tous les deux tout seuls, hein, dans cette station. Et Oleg s'amusait à raconter la fin des livres à son collègue Sergueï. Et Sergueï, n'en pouvant plus, l'a poignardé. Donc, histoire intéressante à 2 titres, parce qu'il s'agit certainement du premier crime. Alors, spoiler, Oleg va bien, il s'en est tiré. Mais il s'agit probablement d'un des premiers ou d'un des rares crimes qui a eu lieu en Antarctique. Et puis, c'est un crime dont le mobile est le spoiler. Alors, qu'est-ce qu'un spoiler ? Le spoiler vient du verbe « to spoil », qui veut dire « gâcher ». D'ailleurs, nos chers amis québécois ont inventé un terme francisé pour se réapproprier ce terme, c'est « divulgâcher ». Donc, il s'agit de divulgâcher un élément clé d'une intrigue, généralement sa fin, en la racontant à quelqu'un qui n'en aurait pas pris connaissance. Alors voilà, déjà moi je m'inscris en termes, je ne vois pas en quoi cela est un gâchis, mais bon. Le spoiler vient surtout du cinéma et de la série télé américaine, enfin voilà, du milieu hollywoodien, où on considère que les éléments de l'intrigue sont sacrés et qu'il ne faut pas les divulguer avant d'avoir vu l'œuvre. Donc la personne qui a le plus joué avec ça, et brillamment, hein, on lui doit quand même beaucoup, c'est Hitchcock, tout simplement, qui, avec Psychose, n'avait pas du tout révélé les éléments clés de l'intrigue et avait complètement maîtrisé la communication autour du film pour qu'on ne sache pas que, et alors attention, si vous n'avez pas vu Psychose, je vous le spoil, mais vous aviez qu'à le voir, qu'on ne sache pas que le personnage incarné par Janet Leigh, qui était quand même une énorme star à l'époque, meurt dans les 15 premières minutes du film.
Merde.
Voilà, absolument.
Mais comment ?
Poignardé sous la douche. Peut-être elle avait raconté la fin d'un livre d'ailleurs à Norman Bates, voilà. Et donc ça, énorme choc chez le spectateur de l'époque. Parce que Janet Leigh, c'est comme, quelle grande star, moi j'ai Scarlett Johansson en tête, voilà. C'est comme Scarlett Johansson qui dans le dernier Avengers mourrait au bout de 15 minutes. Elle ne meurt même pas à la fin d'ailleurs.
Il va bien falloir qu'elle meure tôt ou tard.
Ah bah ça, spoiler. Donc évidemment, à partir de là, on a sacralisé les éléments clés d'une intrigue comme étant un élément synchro-saint du suspense. Voilà. Si on est au courant avant, le suspense ne marche plus. Eh ben, moi, je m'inscris en faux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une étude assez récente menée par deux universitaires de l'université de San Diego, Nicolas Christenfield et Jonathan Leavitt, qui se sont intéressés à cette question du spoiler. Est-ce que prendre connaissance d'un élément clé d'une intrigue gâche le plaisir qu'on a à découvrir cette intrigue? Eh bien, le résultat est intéressant. Ils ont pris un panel de 819 personnes qu'ils ont divisé en trois groupes, à qui ils ont tous donné le même livre. Le premier groupe, ils leur ont juste donné le livre et ils leur ont dit « lisez-le, on débrief après ». Le deuxième groupe, ils leur ont donné le livre et leur ont révélé quelques éléments secondaires de l'intrigue. Quant au troisième groupe, ils leur ont donné le livre et leur ont révélé carrément la fin du livre. Voilà. Ils ont réuni les trois groupes et leur ont demandé quel était leur sentiment sur l'œuvre. Et bien, il se trouve que sur les trois groupes, c'est le troisième groupe qui a le plus préféré lire le livre malgré qu'ils aient eu connaissance de la fin. Alors,
il Donc savait... le « ne me spoile pas » est en fait absolument inutile.
Oui, comme le chantait Brel d'ailleurs.
Exactement.
« Ne me spoile pas oh, ». Okay.
Non, interdit.
C'est interdit. Alors, quelle conclusion de tirer de cette étude? Ben, pas grand-chose en fait. Hein. Mais a priori, le fait de connaître l'élément clé d'une intrigue ne gâche pas pour autant le plaisir qu'on a à découvrir cette intrigue. Au contraire même, d'après la théorie de ces deux chercheurs, c'est de dire ça permet de se concentrer sur d'autres éléments de la narration, notamment des éléments de détail, d'être plus en empathie avec les personnages, parce que ça joue sur une frustration. Par exemple, vous savez tous que maintenant dans Psychose, Janet Leigh meurt au début du film. Donc la charge émotionnelle autour de cette scène va être moins forte, c'est sûr. Mais derrière, vous allez être beaucoup plus en frustration de vous dire « Ah, comment on pourrait éviter ça? Comment on pourrait changer la scène ?» On sait que c'est inéluctable, elle va mourir dans le film au bout de 15 minutes. À partir de là, on s'attache à d'autres éléments de l'intrigue. C'est en tout cas la théorie des docteurs Christenfield et Leavitt.
Ce qui est intéressant, c'est... vous vous souvenez de Columbo quand même?
Ah,
la
oui.
fameuse série Columbo que j'adorais.
Très bon exemple.
Columbo est typiquement la série au cours de laquelle, mais tout comme Agatha Christie et une bonne partie d'une certaine tradition du roman policier, on connaît dès le début de l'intrigue le meurtrier, le comment. Et évidemment, toute l'intrigue repose sur le comment on va pouvoir, le détective qui est Columbo, va réussir à trouver la solution. Et tout tourne autour de généralement un duo complexe et intéressant qui repose quand même sur la qualité des acteurs entre le meurtrier et Columbo.
Absolument. Alors c'est un super exemple auquel j'avais pensé mais que je n'ai pas noté, donc je te remercie Julien. C'est effectivement, si on prend l'exemple de Columbo, quel est le plus important dans une intrigue? Moi je pense que tous les éléments sont importants dans une intrigue, mais la révélation finale ou d'un élément clé d'intrigue ne fait pas toute l'intrigue. Surtout au cinéma, où comme Julien vient de le dire, la prestation des comédiens est très importante, et surtout le cheminement qui fait qu'on arrive d'un point A à un point B est au moins aussi important que le point A et le point B. Et ça, Columbo est effectivement un exemple évident. Je crois qu'il n'y a que deux épisodes dans toute la série où on ne connaît pas la fin avant.
Il n'y en a qu'un seul où il sort une arme.
Ah, et probable, ouais. Oui.
Et il y a celui où sa femme est censée avoir été tuée. Aussi,
c'est celui-là.
Que j'adore.
C'est celui-là.
Il y a même l'enterrement de sa femme, ça va très très loin. Je trouve que c'est même un Columbo qui va presque trop loin là, d'ailleurs.
Ce qui me permet de... Est-ce que vous connaissez le nom du chien de Columbo?
Le chien,
absolument. Est-ce que vous connaissez son prénom? Lieutenant. Voilà. Son prénom n'est jamais dit dans toute la série.
Exact. Alors que Maigret, on connaît son prénom.
Commissaire. Et il a fait de l'électro en Allemagne après. Bref, j'avance parce qu'on me fait des grands signes. Voilà, mais j'en arrive à un point. Premier point, on vient de le dire, à mon sens, ça ne gâche pas une intrigue. Tout dépend de l'intention dans laquelle cela est fait. Évidemment, si j'en reviens à Oleg et Sergueï, on peut se douter qu'Oleg devait être un peu lourd à dire à Sergueï à chaque fois qu'il commençait un bouquin « Eh, à la fin, il se passe ça. Eh, à la fin, il se passe ça. » Bon, bien entendu. Mais à l'inverse, s'interdire le spoiler, comme c'est devenu le cas aujourd'hui, notamment sur les forums, aller faire un tour sur les forums, sur ce magnifique forum qui est jeuxvideo.com, le forum 1215 de jeuxvideo.com. Ah, spoiler, 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 les bannières anti-spoil sont partout. Mais il ne faut pas être dupe, interdire le spoiler interdit aussi bien souvent la possibilité de débattre d'une œuvre. Voilà, on ne peut pas en parler, parce qu'il ne faut rien révéler de l'intrigue. Je vais vous spoiler par exemple Avengers le dernier, à la fin, oui, Thanos arrive à l'aboutissement de son plan et à, et à supprimer la moitié de toute forme vivante dans l'univers. Mais ce n'est pas tant ça qui est intéressant. C'est comment il le fait, comment il arrive jusqu'à son plan, quelles ont été les charges émotionnelles entre les spectateurs, enfin entre les personnages.
La mort de Spider-Man, on pleure tous face à la mort de Spider-Man.
Et ça définit quelque chose des comédiens. Et ce qui est intéressant, c'est d'en débattre, d'en discuter. Donc c'est pour ça que je suis aussi très content de l'émission, du titre de l'émission spéciale, la défunt débat. Parce qu'il me semble que la dictature du no spoil est aujourd'hui une forme de censure, en fait, dans le débat d'idées. Et il ne faut pas être dupe. Qui, aujourd'hui, a les clés du spoil et du non spoil? Ce sont les studios eux-mêmes. C'est eux qui alimentent ce qui peut être spoilé et ne pas être spoilé. Parce que le grand paradoxe, c'est qu'on se dit tous « Ah non, ne me spoile pas ». Mais si on regarde aujourd'hui les bandes annonces de tous les films hollywoodiens, quand même, chaque bande annonce révèle un élément clé du film, quitte à le manipuler, hein, parce que toujours pour prendre Avengers 4, eh ben non, Hulk n'apparaît pas dans le combat final, alors qu'il est dans la bande-annonce.
Voilà, donc, et on sait qu'Iron Man va mourir à la fin, dans le deuxième épisode.
De toute façon, on sait qu'ils sont plus sous contrat.
Ah oui, c'est
donc,
ça. Par contre, c'est vrai qu'il faudrait qu'on avance.
Oui, alors j'avance. Mais je n'ai pas de conclusion, en fait, c'est ça le problème.
Alors moi aussi, j'avais une conclusion à te demander. As-tu des spoils à nous fournir?
Eh bien, j'ai déjà un site à vous recommander. Si, comme moi, vous aimez les spoils, et puis c'est aussi, et si vous intéressez à aborder une œuvre autrement que par l'élément clé de son intrigue, il faut aller sur le site onspoil.com, tout simplement, où on vous racontera notamment que Taylor Durden, enfin que Brad Pitt et Edward Norton sont le même personnage dans Fight Club, que Dark Vador est le père de Luke Skywalker, d'ailleurs, anecdote, dans cette scène, comme en fait la voix de Dark Vador est une voix off. Dans cette scène, le comédien qui jouait Dark Vador en costume ne dit pas « je suis ton père ». Il dit que Obi-Wan est son père et qu'il a tué Obi-Wan. Voilà. Mais en fait, ça a été donc en post-prod, la vraie phrase a été dite. Puisque quand même, on va loin, hein, pour empêcher le spoil, notamment les studios américains inventent des titres de tournage. Par exemple, si je vous demande quel film a été tourné sous le nom de Planet Ice. Titanic.
Flic de Beverly Hills.
Titanic. Ou alors encore A Boy's Life.
Aucune idée.
E.T. Voilà. Donc les studios quand même développent vraiment de l'ingéniosité pour cacher la vérité, mais en même temps, en faisant ça, enfin la vérité en tout cas, la réalité, mais en faisant ça, ils se la gardent pour eux, ils en font un élément de communication. Quel film je peux vous spoiler? J'ai bien envie de vous spoiler la fin de Hélène et les garçons, mais
c'est
je pense que c'est
si,
culte.
Si, en ces périodes de Me Too, il est nécessaire de spoiler voilà. La fin d'Hélène et les garçons.
Alors, quand même, Hélène et les garçons, au revoir Alex.
Au revoir, charmante équipe, merci.
La fin d'Hélène et les garçons, alors c'est un mème aujourd'hui qui tourne assez facilement sur internet, donc c'est facile à trouver. C'est quand même un épisode d'une violence insoutenable pour une série qui était, à mon sens, assez anodine, puisque Hélène est victime d'une agression sexuelle et tous les garçons vont pour péter la gueule des agresseurs. Et là, on a une scène de baston qui est digne, je ne sais pas, de The Raid 1 et 2, de tous les plus grands films d'arts martiaux philippins, de Hong
Bak. Avec des barres en fer.
Des barres en fer, des battes de baseball, c'est assez impressionnant.
Ce qui est étonnant, disons que sur un élément traumatique, ce qui est plus important, c'est la baston finale entre mecs. Mais ceci est un détail.
Oui.
La façon dont a été tourné finalement, la façon dont a été tourné l'épisode, ce n'est pas tant la souffrance d'Hélène, n'est-ce pas, que cri d'amour et autres avec leur biscotto.
Je peux vous spoiler la fin de Star Wars.
Allez.
À la fin, les Jedi gagnent. Et l'étoile noire est détruite.
Pas mal, merci.
Et c'est une constante, donc ça c'est cool.
Moi, on avait envie de vous proposer justement aussi un jeu concours pour ce revival, un jeu concours de spoil, mais de spoil de la vie réelle. Alors là, nous sommes aujourd'hui le 4 novembre, il reste encore quelques semaines avant 2019. On vous propose le jeu concours Nostradamus, c'est-à-dire deviner qui va mourir d'ici la fin de l'année parmi nos célébrités. Johnny Hallyday, c'est bon, c'est check. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, grand jeu concours, envoyez-nous sur la page Facebook de Radio Campus Grenoble, on ne leur a pas encore dit qu'on allait le faire, mais allez-y direct dans les commentaires, commentez d'après vous qui va mourir cette année. Les personnes qui auront trouvé au moins 3 célébrités auront le droit à une visite guidée par Ville d'Art et d'Histoire de Saint-Etienne, également une place au TU Nantes. Guillaume, as-tu choisi déjà? Non, Guillaume n'en peut plus. Il ne sait plus qui va pouvoir... Enfin voilà, Guillaume vous offre une place au TU Nantes.
Oui, c'est vrai.
Et l'hébergement.
Et l'hébergement avec grand plaisir, voilà, oui, parce que bon, c'est pas trop le moment de parler de nos actus, hein, au bout de 10 ans, mais voilà. Comme l'a dit Alex tout à l'heure au passage d'antenne, je suis plus grenoblois depuis longtemps et je travaille dans un théâtre à Nantes. Donc le gagnant ou la gagnante, je serai ravi de l'inviter voir un spectacle au TU Nantes et de l'héberger aussi.
Donc, je vais permettre un pari.
Ouais, vas-y.
Eddie Mitchell. Parce que je l'ai vu à l'enterrement d'Aznavour et il était vraiment marqué, je crois.
Moi, je pense Mick Jagger.
Ouais. Ok, ben voilà, le jeu concours est lancé. Envoyez-nous vos propositions les plus justes, les plus folles, les plus surprenantes des cadavres 2018.
Pour Michel Piccoli.
Piccoli, pourquoi pas ? Allons-y, Alonso. Oh,
Jacques Chirac ?
Oui ! Non, mais lui, il est déjà mort.
Ouais, les politiques.
Lui, il est avec Yasser Arafat et Ariel Sharon.
Chouette ! Et là, du coup, nous partons directement à Paris, dans une cave parisienne. Écoutez la chronique cave de Flora. Nous allons bien sûr, alors, comme d'habitude, hein, je crois que j'ai avoir des problèmes de radio, de technique jusqu'au bout. Mes amitiés, mes excuses les plus intimes.
Guillaume, Léa, salut à vous. Salut à toi, l'auditeur, l'auditrice de Radio Campus Grenoble. Et surtout, 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 un très joyeux quart de siècle, bordel. Tu verras, et tu l'as sûrement déjà vu, Radio Campus Grenoble, le quart de siècle, c'est franchement un anniversaire hyper sympa. T'as vécu des trucs, mais t'es pas encore trop vieux, du coup tu peux enflammer le dance floor comme il se doit, en te rappelant de tes conneries les plus folles sans que ça paraisse complètement désuet. Tu te dis que t'as encore la vie devant toi, donc globalement, j'ai envie de te dire, profite.
Prends le train vers la côte, sur le ferryboat, assieds-toi. Cours derrière l'autocar, et dans la nuit noire, pense à ça. Parle avec un visage, au cinquième étage, écoute-la. Sens comme tu es vivante, comme les autres avant.
Merci Jan Berkin pour ces quelques mots. Quant à notre petite affaire, je vous avoue que quand Léa et Guillaume m'ont dit on va reprendre l'émission 10 ans plus tard, mais en fait ça va pas s'appeler débat des filles mais défun débat et le lieu ce sera la cave. Seule pièce de l'appartement qu'on n'a pas visité. Oui, mais il n'y a pas toujours de cave dans un appartement aussi. Je me suis dit, ok, alors là, vraiment, c'est la fin du monde. Mais parce que c'était aussi le jour où Borsolano est devenu président du Brésil, donc l'atmosphère était déjà pas mal pesante. Je me suis dit, c'est pas grave, keep cool Flora. Je vais pouvoir enfin, réfléchir à la fonction de la cave dans nos imaginaires collectifs. Et ça, ça risque d'être sacrément foisonnant. 2. En profiter pour remettre les pieds dans ma propre cave, dans laquelle je ne suis pas allée depuis au moins 2 ans, pour cause d'attaques massives de champignons non hallucinogènes, mais asphyxiogènes. Et je rigole pas, ils ont eu la peau de Monsieur Quintero, mon voisin du 3e, qui est mort de maladie respiratoire, ce qui n'est pas sans lien, comme vous pouvez le constater. Et à la place, on a désormais un couple avec un bébé beaucoup trop sage pour être honnête. 3. Je me suis dit, super ! Et cette chronique, on va pouvoir l'appeler la chronique cave ! Donc voilà, super. Je lance le générique de Nick Cave, qui sera notre parrain pour l'occasion, avec Red Right la Hand. Yes, my English is very good. Pendant que je vais descendre dans les abysses de ma propre cave afin de pouvoir vous faire, chères auditrices, un reportage in situ à mes risques et périls.
Where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wise. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, across the mills, across the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. ¶¶
Alors, plusieurs questions se bouleversent dans ma tête avant toute chose, après cette chanson de Nick Cave. Avant toute chose, une cave, qu'est-ce que c'est, hein? Quand on pense à une cave dans l'imaginaire collectif, on pense à quoi? Et comment on se la représente et on la représente scénographiquement? Comment les artistes ont investi l'espace cave? La cave, c'est globalement un lieu situé sous nos maisons, donc un lieu de la cache, de l'enfouissement, du refoulement. C'est l'espace transitionnel où l'on va stocker ces objets qu'on ne veut plus voir tous les jours, mais dont on n'est pas vraiment capable de se débarrasser complètement non plus. C'est aussi un endroit stratégique pour être un peu tranquille et reculé afin de pouvoir s'adonner à nos plaisirs inavouables, que ce soit un groupe de rock, des fantasmes SM, une addiction aux jeux vidéo ou autre espace de bricolage du dimanche. Mais la cave, c'est aussi bien souvent un espace clos et sans fenêtre, avec une quantité d'air limitée et saturé de champignons asphyxiants en ce qui me concerne. Alors, comment cet espace a été investi par les artistes contemporains qui construisent notre imaginaire collectif? D'abord, j'ai envie de vous parler du cas de Natacha Campouche, qui a vécu dans un sous-sol aménagé pendant 8 ans en Basse-Autriche, qui avait été enlevée, hein, à l'âge de 10 ans. Ce fait divers a marqué durablement toute une génération parce qu'il était tout à coup possible qu'une jeune fille soit victime d'un tel enfer à quelques mètres de la vie de tous les jours et que son bourreau avait une vie a priori tout à fait tranquille et rangée. L'histoire de cette jeune femme a notamment inspiré plusieurs pièces, dont SS Stockholm de Solène Denis, fabriqueuse de drames. SS Stockholm est la pièce qui l'a fait connaître et qui se place du point de vue de Solveig, la victime. La dramaturgie travaille beaucoup sur la répétition du quotidien de Solveig. Et pour le traitement de cet espace cave, les scénographes Éric Charbot et Philippe Casabon ont imaginé une boîte noire où l'on enferme les spectateurs et les comédiens ensemble, comme un espace mental très concret, avec une petite jauge qui place le public en tant que voyeur impuissant. Donc, en quelque sorte, une sorte de spectacle participatif au malaise ambiant et à l'attachement aux comédiens et par là même au bourreau qui est propre au syndrome de Stockholm. On peut également, dans les références, citer Le Chagrin des Ogres, un spectacle qui a également rendu célèbre son metteur en scène, Fabrice Murger, qui est l'actuel directeur du Théâtre National de Belgique. C'est un spectacle créé en 2009 qui abordait les démons de l'adolescence et qui s'inspirait également de l'affaire Campouche et de l'histoire de Bastien Bosc qui s'est donné la mort à 17 ans après avoir ouvert le feu dans son lycée. Donc dans ce spectacle, l'espace cave s'apparentait à une chambre un peu précairement aménagée, délimitée très simplement par une découpe de lumière, un matelas, quelques accessoires, restes de l'enfance, poupées, cassettes, oui, cassettes, enregistreurs, comme pour dire, cette cave, on se la traballe partout avec nous finalement, tant que nous n'avons pas affronté les démons de notre adolescence ou de notre enfance. Le chagrin des ogres, dira le metteur en scène, c'est notre façon d'enterrer notre enfance. Je citerai un dernier cas marquant de cave comme procédé d'enfermement et j'ai envie de dire plus largement de violence faite aux femmes aussi, en citant Dans l'enfer des tournantes de Samira Bellil. Donc là, on est dans un livre, hein, c'est un livre, pas un roman puisque c'est une histoire véridique, un témoignage plutôt, publié en 2002 et qui est le premier livre à évoquer publiquement la problématique des viols collectifs en banlieue et du cercle vicieux qui enferme les filles qui en sont victimes. Et l'impossibilité du traitement par le système judiciaire à l'époque, en tout cas. Ce qui est très beau dans ce livre, c'est que précisément, cette fille fait absolument tout pour s'en sortir. C'est un livre qui fait aussi écho au merveilleux malheur de Boris Cyrulnik, qui plaide pour la résilience. Je voulais le mentionner parce qu'une fois qu'on a lu ce livre, je crois qu'on ne peut plus jamais voir une cave de la même façon et que ça a été une pierre majeure dans cette histoire-là. La cave, ce n'est pas qu'un lieu du malheur, attention, hein, c'est aussi un lieu du souvenir. Et d'ailleurs, notre confrère de France Inter, Antoine Decaune, dans son émission Pop Pop Pop, qui passe du lundi au vendredi à 16h, a eu l'idée lumineuse de descendre en fin d'émission à la cave, justement, pour ressortir les personnages des sketchs qu'il jouait non pas 10 ans plus tôt, mais bien 30 ans plus tôt, sur le plateau de Nulle part ailleurs, sur Canal+, pas moins, voilà. Donc dans le meilleur des cas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il remonte avec un disque d'un grand cru. Et puis, bon, bah, sinon, globalement, on assiste médusé à la résurgence radiophonique de vieux sketchs télévisuels qui ont plus ou moins bien vieilli. Donc, Radio Campus Grenoble, s'il te plaît, ne fais pas ça pour tes 30 ans. Il faut savoir aussi se réinventer ou laisser la place aux jeunes, je ne sais pas. Enfin, la cave dans l'espace culturel, je ne pouvais pas ne pas vous parler de la cave comme espace de création, parce que sans cave, pas de Dracula, pas de Frankenstein, pas de science-fiction, et nos imaginaires et nos peurs enfantines se retrouveraient alors orphelines. Je ne peux donc que vous inviter à regarder un documentaire disponible actuellement en replay sur Arte Plus 7, Le funeste destin du docteur Frankenstein, qui retrace la genèse de ce Prométhée moderne créé par Mary Shelley et publié en 1818. Créature de papier qui ne cesse de nourrir le champ encore aujourd'hui de la science-fiction, du cinéma, de la littérature et de la pop culture. Vous allez me dire, quel rapport avec la cave ? Alors pour moi, je me suis toujours imaginé que le docteur Frankenstein travaillait dans une cave quand il créait sa créature. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser ici et je ne peux que te souhaiter de nouveau un bel anniversaire Radio Campus Grenoble. Garde la pêche. Merci pour tout et à vous les studios, mes chers acolytes.
Et voilà.
Merci.
Merci, Flora.
Frankenstein, c'était dans un laboratoire.
Oui, mais bon, écoute, le laboratoire, le grenier, tout ça, finalement, qu'est-ce qu'une cave, n'est-ce pas ?
C'est vrai ça, qu'est-ce qu'une cave ?
Voilà, alors, moi j'avais dans un premier temps plutôt envie de vous parler des espaces d'exposition, d'exposition d'art plus particulièrement. Vous savez, dans le jargon, on parle de white cube, c'est une notion qui a été pensée fin des 70, début des 80 par un certain Brian O'Doherty, et le white cube, c'est l'espace parfait de l'art, d'après lui.
Aucun lien avec Pete.
Aucun lien avec
Pete. C'est incroyable le nombre d'homonymes qu'il y a dans cette émission.
On aurait pu faire une expo,
Ça sera la prochaine.
Ouais, on fera une émission homonyme. Mais du coup, voilà, j'ai mon cher Brian qui décide, dans les années 70-80, de décider, une fois de plus, de qu'est-ce que l'espace idéal d'expo. Et pour lui, c'est un espace sans absolument aucune chose qui puisse détourner notre regard. Donc imaginez des murs blancs, sans plinthe, sans fenêtres, sol gris, etc. En fait, s'il n'y avait pas la rampe de néon, nous serions dans la cave. Et en y réfléchissant d'un peu plus près, il s'avère que l'espace d'exposition, c'est une cave. Quels sont nos premiers lieux d'expo dans le monde, au final ? Les grottes, le néolithique, n'est-ce pas ? Moins 38 000, on n'avait pas exactement nos caves avec les escaliers pour descendre de notre appartement, notre maison, à notre cave. nos chers hommes de Cro-Magnon, eux, ont créé du coup leur première peinture rupestre au sein des caves. Repensez également, on est à Grenoble, le musée d'art, bah, le musée d'art, mais également le magasin. Ce sont que des murs sans fenêtres. Les fenêtres, elles, sont sur le plafond, sur le toit, un peu comme on peut avoir effectivement dans nos caves avec les aérations. Et ensuite, les premiers espaces, on va dire, dédiés à l'art, s'avèrent être les cryptes, les espaces dans les églises qui sont souterrains et dans lesquels on allait voir les trésors des églises, qui étaient pour la plupart ou les cercueils, tombeaux des saints, ou quand on n'avait pas le corps en entier, la relique, donc le bout de doigt, le bout d'oreille, en fonction. Et c'est là même où on a directement pensé à la muséographie de ces espaces, c'est-à-dire qu'il y avait un escalier pour descendre, un escalier pour monter, et comme ça, la foule de pèlerins qui allaient en procession voir Saint-Antoine, Saint qui que ce soit, avaient aussi le chemin à prendre, exactement comme nous maintenant, lorsque l'on va dans un musée, il y a bien le sens pour aller voir une exposition. Donc plus ça va et plus je me rends compte qu'effectivement, une exposition ne peut avoir lieu que dans une cave. D'ailleurs, Renaissance, moment où on redécouvre toute cette question de la lumière, etc., Alberti se dit, dans son, c'est un bouquin da Pictura qui est censé représenter toute l'histoire de la peinture, se dit, mais au final, un tableau, c'est une fenêtre sur le monde, c'est une fenêtre sur l'histoire. Et effectivement, essayer d'accrocher un tableau sur une baie vitrée, ça ne marche pas. En plus, on a une autre contrainte qui est un peu conséquente, c'est le soleil. On a tous mis avec le scotch, avec le scotch ou la pâte à fixe, notre photo de la colo 94. Ben, au bout de 5 ans, au-dessus de nos bureaux, ce n'était plus la colonie qu'on avait vécue, mais un bain dans une couleur sépia, tellement le soleil avait effectivement bouffé la couleur de notre photo.
Est-ce qu'on peut dire que c'était le temps béni des colonies, du coup?
Fallait oser. Non, mais ouais.
Lui pourrait mourir dans l'année, tiens. Sardou.
Ne m'appelez plus jamais France.
Voilà, non, mais c'est parfait. C'est une très bonne idée de parler de ça. Je ne sais pas. En tout cas, tout
moi,
ça...
Moi, je suis pour.
Pour la mort de Sardou?
Non, oui. Je suis pour.
Ok, allons-y, Alonso, après tout, pourquoi pas. Mais non, voilà, en tout cas, il y a cette chose qui est qu'un espace d'expo, pour survivre, a besoin d'un minimum d'ouverture, qu'il n'y en ait pas trop, en réalité. Et c'est pour ça que la cave, en fait, est l'espace absolument parfait. Bon, en ce moment, c'est la crise. C'est la crise de partout. On n'a plus trop les moyens de s'offrir des caves réfrigérées ou des espaces d'expo aussi complexes que peuvent l'être celui du musée de Grenoble. Donc, où est-ce qu'on va? Dans un endroit qui coûte pas un rond. Un bunker. Le bunker, personne ne veut vivre dedans. C'est indestructible. Et ça excite pas trop les politiques. C'est un peu compliqué de trouver qu'est-ce qu'on peut faire dans un espace de mémoire aussi fort. Donc les bunkers sont aujourd'hui vraiment un espace d'art idéal. Pensez par exemple, je suis toujours à Grenoble, le CAB, là-haut à Bastille.
D'art Bastille.
Exactement, bravo. Le CAB a été construit dans les casemates. Et si tu vas sur Wikipédia voir ce que c'est qu'une casemate, la troisième ligne, une casemate est un bunker. Et pour ça, j'avais envie de vous parler de la Biennale d'I.O. Arc, qui est une biennale d'art contemporain assez folle, qui a été créée en 2013. 6500 mètres carrés d'exposition, un espace accessible uniquement avec un car. Il s'agit en fait de l'ancien bunker, l'abri anti-atomique de Tito, qui a été construit de 59 à 73, dans lequel Tito n'a jamais été, étant donné qu'on n'a pas eu de problème nucléaire dans les années... il n'y a pas eu de, pas eu de guerre mondiale nucléaire, on va dire ça comme ça.
Spoiler.
Spoiler. Et du coup, en fait, c'est un bunker qui a été créé de toutes pièces, qui a coûté une blinde et qui n'a jamais été utilisé. Donc imaginez l'espace...
Il l'a pas utilisé de Tito.
Non, il n'est jamais rentré dedans. Oui, voilà. Du coup, bunker absolument plein, mais vide d'occupation. C'est pourquoi, en 2013, le bunker est juste à côté de Sarajevo. C'est pourquoi, en 2013, il y a une bande d'Hurluberlu qui se sont dit « Pas de problème, on va en faire une biennale ». Et donc, chaque 2 ans, arrive une nouvelle quarantaine d'artistes à peu près, plutôt des artistes des Balkans, et vont occuper l'espace. Mais la particularité de cette biennale, c'est que plutôt que de rentrer, d'enlever les œuvres à la fin de l'édition et d'en remettre à la prochaine, elles vont s'amonceler comme un palimpseste. Vraiment, peu à peu, vous voyez, c'est le millefeuille. Donc là, si vous allez à la biennale de 2019, vous aurez les œuvres de 2013, 2015, 2017. Voilà, tout ça pour dire le bunker, l'espace d'art contemporain par excellence, qui peut même devenir non plus une boîte, mais plutôt un écrin, pensé pour ceux qui aiment aller à Dunkerque, aux plages de Dunkerque. Il y a une œuvre qui s'appelle Réfléchir, que on peut brasser régulièrement, de l'artiste Anonymous, comme ça au moins, c'est Anonyme, excusez-moi, j'ai anglicisé. Anonyme, qui est en fait un bunker qui est devenu une boule à facettes. Sur les 350 mètres carrés de ce bunker de béton, il a recouvert des centaines de bouts de miroirs afin d'en faire une énorme boule à facettes au milieu de la plage. Tout va bien ?
Ça me fait penser à un truc.
Quoi ?
Que quand on va au Louvre, tous les gens te disent la Joconde, c'est pas la Joconde.
C'est-à-dire ?
En gros, il n'y a pas que l'histoire peut-être de l'absence de fenêtre. Quelque part, les œuvres d'art, tu les mets quelque part dans un endroit où on ne peut pas accéder. Et qu'au fond aussi, il y a toujours cette dimension-là, où même dans les églises au début, dans le chœur, il y avait un rideau pour que les catéchumènes ne puissent pas rentrer. Dans les temples grecs, on ne pouvait pas rentrer voir la statue. Et qu'en gros, tu as aussi peut-être cette dimension où tu es caché. J'imagine que quand les types allaient au fond des grottes à Lascaux, c'était aussi peut-être pour se cacher des autres. Et qu'en gros, ils montraient quelque chose qu'on ne devait pas voir. Et dans ce côté un peu réglementé, sacré, tu peux pas t'approcher et compagnie, il y a peut-être aussi cette dimension.
Ça marche, ouais, ça me va, hein? Complètement, ouais. Et alors voilà, de cette question aussi du cachet vient les questions de langue. De est-ce que ce mot est une insulte, au contraire, voilà, quelque chose de positif. Et pour ça, Caroline en direct, alors je sais plus Caro, où est-ce que tu es en ce moment, Londres, quelque part en Angleterre. Bref, Caroline souhaitait nous parler de qu'est-ce qu'une cave pour les Québécois. Bon, ça ira jusqu'au bout, hein, de tant qu'à faire. La technique fonctionnera pour moi qu'à la fin. Je vous assure, maintenant, ça va fonctionner.
La minute par rapport. On me dit dans l'oreillette DBDF. On me dit dans l'oreillette qu'on s'installe dans la cave. Waouh, sur ces 10 dernières années, j'en ai passé la moitié au Québec. Si t'es en train de compter sur tes doigts, cherche pas trop loin, ça fait 5 hivers. Ouais. La saison des lieux clos, comme les caves. Mais bon, là-bas, on dit plutôt sous-sol ou basement. Parce que le mot cave, il est plutôt destiné à désigner l'idiot du village. Bon, sujet ou attribut du sujet, c'est un peu le cousin de notre con à nous. Se faire traiter de cave, de gros cave, d'esti de cave, c'est donc pas drôle. C'est d'ailleurs assez violent. On pourrait penser que ce qui est à l'origine de l'expression, c'est la différence, l'isolement. En fait, le mot cave vient ici de l'anglais et du mot calf, qui au pluriel se prononce calves. Ça désigne le petit de la vache, le veau. Bon, je vous laisse une seconde pour y penser et achever votre réflexion de la « Oh, c'est trop mignon, un petit veau » attitude. Ok, donc, revenons à nos veaux. C'est ainsi que les gérants anglophones des chantiers hivernaux au Québec traitaient leurs employés. Les travailleurs francophones restaient 6 mois dans le bois sur les chantiers parce que niveau déneigeuse et asphalte, on n'était pas encore au top 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 du top. À la fin du chantier, donc, 3 bonnes nouvelles. 1. Les doigts et le canal nasal dégèlent, c'est le printemps. 2. C'est jackpot parce qu'on reçoit la paye de l'année. Et 3, normalement, si tout va bien, tu vas revoir ta femme. Donc tout excité par le pain et les jeux d'adultes, probablement comme le chef de chantier d'ailleurs, mais bon. Ils avaient l'attitude un peu de veau qu'on libérerait d'une étable à la fin de la saison des neiges. Et donc les Canadiens francophones ont continué à utiliser ce mot pour décrire les gens qui trouvaient un peu ou beaucoup idiots. Et en fait, c'est plutôt aujourd'hui utilisé pour les hommes. Encore un truc réservé aux hommes, mais passons. Et sortons de cette minute par rapport pour se recentrer sur une cave concrète. Une cave concrète. Vous l'avez ?
Une cave concrète. Et finalement, une cave, c'est quoi ? Ou le cave, c'est quoi ? Julien, raconte-nous.
Ah ouais, pas de musique.
Que dalle, il est 48, on est en retard.
Que dalle, t'as raison. Du coup, oui, moi, j'étais invité à parler de caves et j'aime bien les caves, mais j'ai pas bien compris. J'ai pas bien compris de quelle cave il s'agissait. Du coup, juste pour vous dire, j'adore Aurélien Bélanger le matin. Je suis très amoureux de ses chroniques sur France Culture, donc je voulais tenter de faire une chronique à la Aurélien Bélanger, chose que je vais jamais réussir à faire. Mais je voulais commencer de la même manière. J'ai toujours adoré les films noirs et les comédies des années 60. Ces comédies en noir et blanc, peuplées de bandits, de vieux malfrats, particulièrement dégringandés, colorés, bariolés. Ces films, qu'ils soient des comédies ou des films noirs, signés par Georges Lautner, Michel Audiard, Grangier, Houry, Melville, Henri Verneuil. Ce que j'aime dans ces films-là, c'est qu'ils sont tous très nostalgiques. Ils datent des années 50 à 70 et déjà, ils parlent d'un univers qui n'existe plus. Cet univers, c'est celui d'un Paris rêvé, d'un Paris probablement d'avant-guerre, d'un Paris d'un grand banditisme où les bandits sont pas vraiment des méchants, pas vraiment des gentils, nostalgiques sans doute, mélancoliques, un peu tristes. C'est un espèce de milieu sur qui est proche de l'effondrement, où on ne sait jamais qui est le flic, qui est le gentil, qui est le méchant, qui est le doux, qui est le dingue, qui est le fou. C'est assez intéressant parce que ce sont des films qui racontent un Paris et une France qui n'existent pas, ou plutôt qui parlent d'un, sans doute d'une France qui n'existe plus à l'époque où ils sont et qui n'a sans doute jamais existé. Ce qui laisse quand même à penser qu'on est follement nostalgique parce qu'on continue de faire cela 40 ans après. Et ce qui m'intéresse dans ces films, c'est notamment la langue qu'on y parle. Cette langue, c'est un peu notre québécois. C'est un Québécois de France, c'est notre Québécois parce que c'est une langue qui grammaticalement ressemble au français, qui en a à peu près toutes les structures, des verbes, des noms, des adjectifs, etc., mais dont le vocabulaire est tellement exotique qu'on finit par plus rien y comprendre. Cette langue, c'est l'argot. Et l'argot, quelque part, c'est pas une langue morte, c'est ce qu'on pourrait appeler une langue moribonde, parce qu'elle est fleurie comme une tombe, c'est-à-dire que c'est la langue de gens qui n'existent plus et qui pourtant nous apparaissent. C'est comme une persistance orale et rétinienne de la langue. J'adore l'argot parce que je crois que c'est typiquement cette langue dont je ne suis pas sûr qu'on l'ait parlé en dehors d'un film, mais qui a cependant des dictionnaires. Et effectivement, d'un point de vue linguistique, ça dit beaucoup de choses. Le film typique de cette dans cette dimension-là, bah, c'est Les Tontons Flingueurs. Les Tontons Flingueurs, c'est un film qui s'écoute autant qu'il se regarde. C'est un film sonore plutôt qu'un film visuel. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est typiquement le genre de film dont on n'a pas besoin de voir les images. Il suffit de l'écouter, non pas pour le comprendre, mais pour être complètement emporté. Et dans Les Tontons Flingueurs, justement, on a là ce phénomène identitaire très fort où de vieux malfrats, sur le retour un peu mal foutus, vont se retrouver confrontés à la modernité d'un Claude Riche, dont je vous rappelle qu'il est mort, lui, donc c'est pas la peine de le mettre dans le concours, la modernité tout aussi débile d'un Claude Riche. Eh bien, en argot, on dit pas, quand on parle de cave, on parle pas d'une cave, on parle d'un cave. Un cave, c'est-à-dire, ça vient du mot caver, d'un verbe qui lui-même vient du très vieux français et qui signifie jouer de l'argent au jeu. Et le cave, par extension, c'est la personne qui se fait duper au jeu, qui perd au jeu, et par extension encore, c'est la personne, donc le naïf, d'une part, ou la personne étrangère au milieu, puisqu'on parle toujours de milieu en argot. Il n'y a pas de marge, il n'y a que du milieu. Mmh. Et le cave est un personnage, alors ne pas confondre avec le poucave, qui est un autre terme d'argot plus récent, qui vient du romani et qui dit une personne qui a donné les autres. Le cave, c'est un personnage extrêmement important de ces films-là et du cinéma français. Le cave, justement, apparaît comme personnage principal dans un film de 61. Le 12e film du tandem Jean Gabin, Michel Audiard, 12 films quand même, à l'époque on ne se lassait pas de ces duos-là, et qui s'appelle justement « Le cave se rebiffe ». Alors, « Le cave se rebiffe », c'est à l'origine un livre de Simonin, non pas Simenon, mais Simonin, qui a signé aussi par exemple « Le Pacha »,« Touchez pas au Grisby », et qui raconte l'histoire très simple hein, du DAB, qui est joué par Jean Gabin. Et le DAB Jean Gabin est un malfrat de haute tenue qui va se retrouver supporté par une bande de malfrats plus ou moins débiles, dont l'un évidemment est joué par l'inénarrable Bertrand Blier, qui joue un patron de maison close sur le retour, dont la moitié des maisons ont déjà été saisies, et qui vont tenter un peu le coup du siècle à la manière faux-monnayeur, c'est-à-dire de imprimer 1 milliard d'anciens francs, évidemment, de billets de 100 florins pour escroquer les Hollandais. Et évidemment, il y a dans la bande Monsieur Eric, joué par Franck Villard, qui a joué énormément de rôles, et Monsieur Eric est un imbécile, et je vous laisse écouter, si la, technologie fonctionne, un extrait.
Parce que j'aime autant vous dire que pour moi, Monsieur Eric, avec ses costards tissés en Écosse à Roubaix, ses boutons de manchette en simili et ses pompes à l'italienne fabriquées à Grenoble, eh ben c'est rien qu'un demi-sel. Et là, je parle juste question présentation. Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Et encore, les rois, ils arrivent à l'heure. Parce que j'en ai connu, moi, mon cher maître des rois. Et puis pas des petits. Des Hanovres, des Hohenzollern,
Rien que des michetons garantis croisade.
Si vous me voyez là maintenant, mais moi j'ai pas toujours tenu un clandé. Hein.
Vous avez pas connu la rue du Chalabet.
60 chambres, et ils ont filé tout ça aux petites sœurs des pauvres, quand j'y pense, tiens. Alors c'est pour vous dire que votre ami Eric, ses grands airs, il peut se les cloquer dans le baba.
Pourquoi dites-vous mon ami en parlant d'Eric? Je lui prête de l'argent, le vôtre d'ailleurs, à 20%. C'est un client, rien de plus.
Oui, mais vous pourriez les choisir un peu mieux.
Mon cher, je sais que le dicton veut qu'on ne prête qu'aux riches, mais on ne leur prête pas à 20%. Je ne demanderais pas mieux que de passer votre argent dans la famille Rothschild, malheureusement.
Oh, mon cher maître, je vous en prie, hein, entre le baron Édouard et un train de patin comme Eric, il y a une marge. D'ailleurs, à propos de marge, je trouve un peu baroque de vous prêter à 8% du pognon que vous faites travailler à 20.
Les 12% de différence sont le prix de ma garantie. Avec moi, vous êtes sûr de revoir votre argent. L'honnêteté, ça se paye. Mais... c'est probablement votre argent qui arrive.
On apprécie évidemment le langage fleuri et l'argot de Audiard. Monsieur Eric n'est pas le cave. Le cave, c'est Maurice. Maurice, joué par Maurice Birot, qui est le graveur à qui les pauvres malfrats vont essayer, bon gré mal gré, de cacher effectivement la véritable nature de leur affaire, c'est-à-dire de faux billets. Évidemment, le cave n'est pas aussi idiot, naïf et étranger qu'il devait l'être. Et toute la comédie va reposer effectivement sur les tentatives désespérées de malfrats totalement débiles, dont Monsieur Eric, dont Jean Gabin dira si... la connerie se mesurait, il en serait le maître étalon. Donc la tentative désespérée de ces malfrats de cacher leur entreprise. Alors ce qui m'intéresse, c'est que le cave, c'est vraiment un personnage de comédie à la française. C'est-à-dire qu'il y a eu le burlesque à l'américaine, qui était un burlesque gestuel, dont Charlie Chaplin et quelques autres étaient évidemment les modèles. Il y a un burlesque à la française, et pour moi, c'est le burlesque du cave. C'est le burlesque du naïf, qu'il soit vrai ou qu'il soit faux, qui va faire dérailler la totalité du film. Alors, si on veut chercher des caves, on en trouve beaucoup. Le plus beau, le plus tendre, c'est sans doute Bourville. Bourville, dans son duo, dans ses duos formidables avec Louis de Funès, où Louis de Funès, notamment dans Le Corneau, cherche à faire faire à Bourville des choses extraordinaires, et Bourville n'y parvient pas. Ou plutôt, Bourville va faire dérailler les plans. Un autre cave formidable, bah, c'est tout simplement Pierre Richard. Pierre Richard dans Le Grand Blond, Pierre Richard dans La Chèvre, où effectivement Pierre Richard fait dérailler la totalité du film. C'est vraiment un burlesque au sens propre. Et puis évidemment, plus proche de nous, François Pignon, avec lequel je vais vous laisser, parce que j'avais pas de conclusion non plus, moi, parce qu'on n'a pas de conclusion dans ces émissions-là. Donc je vais vous laisser avec François Pignon dans, bah, évidemment, Le Dîner de Cons, qui évidemment, dont on ne sait pas qui sont véritablement les cons. Et voilà.
Monsieur Pignon ?
Oui ?
Si je vous dis précisément ce qu'il faut lui dire, vous pensez que vous pouvez le faire ?
Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile, hein.
Ok. Bon, ça... donc j'enchaîne. J'enchaîne, on arrive sur la fin. On a tout parfaitement géré. Ce que j'aime bien de ce concept, c'est c'était l'émission que je n'aurais pas pu vous spoiler parce qu'elle n'a pas de fin. Alors n'ayez pas de fin. Donc je vais pas dire au revoir. J'ai juste envie de citer des noms très chers à nos cœurs. Je pense que Léa sera d'accord. Donc tout d'abord, Débat des filles, c'était Flora, c'était Claire, Débat des filles, c'est Flora, c'est Claire, c'est Caro, c'est Audrey, c'est Léa, c'est leur harem d'au moins une douzaine d'hommes. Ne racontez pas la fin, c'est, et j'en oublie certainement parce que je n'ai pas été là tout le long. Je ne vous ai pas écouté tous les dimanches, mais j'ai souvent pensé à vous. C'est Raphaël, Sabine, Thiago, Marie, Léa, Ben. Grenoble, c'est Bertrand, Flo, Amaury, Pierre, Charles-Éric, Alex... que j'ai recroisé aujourd'hui après 10 ans. Jérôme, c'est plein d'autres gens. Voilà, donc je veux bien, Léa, que tu envoies une musique, sinon je vais pleurer.
Waouh ! Bon, bah voilà, débat, des fins, tout ça, des fins, débat. Une émission dans laquelle on rigole sans cesse, dans laquelle, heureusement, Radio Campus continue d'avoir une équipe de bénévoles, de travailleurs absolument fantastiques. Merci Martin, merci Émilie, merci à vous tous pour cet accueil. Et depuis le début de l'émission, on vous spoil notre chanson de fin qu'on adore. Dès que tu rentres à Grenoble, tu vois la montagne. Du coup, on n'avait qu'une envie, c'était de vous montrer Philippine et Théo pour la fin du monde.
Pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. Mets dans ta valise une simple chemise, pour la fin du monde, pas de vêtements.
Et mes photos. photographie,
laisse-les là.
Et ma boîte à outils,
laisse-la aussi.
Mon vieux, tant pis.
Pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. Laisse tes bijoux, tes machines à sous. Pour la fin du monde, pas besoin d'argent.
Mon avion, mon képi,
laisse-les là.
Ma carré, mon fusil,
laisse-les aussi.
Mon vieux, tant pis.
Pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. N'aie plus peur de rien, tout ira très bien. Pour la fin du monde, viens tout simplement.
Tant pis.
Pour la fin du monde, prends ta valise.